Et nous lisons l'évangile qui nous est proposé pour ce jour, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 26. Donc c'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit. Il est quasiment certain, autant qu'on peut l'être, que Jésus n'a jamais prononcé ce long discours rapporté par l'Évangile de Jean lors du dernier soir avec ses disciples, et dont nous venons de lire un extrait. Plusieurs points plaident en ce sens. J'en retiendrai deux. Le premier est que, si ce discours avait eu lieu, il serait très étonnant qu'aucune autre tradition que l'Évangile de Jean ne le rapporte. En effet, il comporte des enseignements essentiels pour les premières communautés chrétiennes, et les disciples présents en auraient forcément fait part à leur communauté. Le deuxième point est que ce discours ne ressemble pas du tout au style de Jésus, le fils du charpentier, qui utilise un langage simple et concret, compréhensible par des hommes et femmes, eux-mêmes simples et sans grande instruction. Dans le récit de ce soir, le lavement des pieds, lui, est tout à fait dans le style de Jésus. Il comporte un acte symbolique qui frappe les disciples et il est suivi d'un enseignement assez court et en lien direct avec cet acte de laver les pieds de ses disciples. Il se pourrait donc que Jésus ait vraiment fait cela, même si les autres évangiles ne le rapportent pas. Mais alors, l'auteur de l'Évangile invente-t-il de toutes pièces ce discours ? Oui et non. Il faut se rappeler le contexte de l'écriture de cet Évangile de Jean. Nous sommes à la fin du premier siècle et les derniers témoins directs qui ont connu Jésus sont en train de mourir s'ils ne sont pas déjà morts. les membres de la communauté auxquels s'adresse l'évangile de Jean sont-ils alors condamnés à répéter ce qu'ils ont reçu de ces témoins directs et qui se limiterait plus ou moins au contenu de cet évangile? Et ce, alors qu'ils sont confrontés à une situation très différente de celle qu'a connue Jésus. Le temple de Jérusalem a été détruit après une révolte contre le pouvoir romain qui a été un échec cuisant. Le judaïsme se reconstruit sur ses bases radicalement nouvelles et les pharisiens sont les artisans principaux de cette reconstruction. Les communautés chrétiennes ont d'abord été un mouvement qui s'inscrivait dans ce judaïsme, même si elles professaient des éléments nouveaux et assez radicaux. Mais, entre autres par la prédication de Paul, de plus en plus de non-juifs sont entrés dans ces communautés et ils deviennent majoritaires. Les chrétiens, tels qu'on les appelle maintenant, s'éloignent des juifs et les polémiques avec ceux-ci, rapportées par les évangiles, sont les échos de ce fossé qui est en train de se creuser. L'enseignement de Jésus s'inscrivait dans le judaïsme de son temps, centré sur le temple de Jérusalem. Les relations de Jésus avec des non-juifs sont restées marginales. Les lettres de Paul sont des échos de la difficile assimilation des non-juifs dans les communautés chrétiennes. Mais son recours constant à la Bible hébraïque montre bien que même incluant des non-juifs, les communautés fondées par Paul restent en lien étroit avec le judaïsme. Au temps de l'écriture de l'évangile de Jean, les enseignements de Jésus rassemblés dans des évangiles et les lettres de Paul ne permettent donc pas de répondre à la nouvelle situation de la communauté de Jean. C'est ici qu'intervient un aspect très important dans les premières communautés, le prophétisme. Paul l'écrit déjà aux Corinthiens. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. Et parmi ces dons, Paul indique à tel autre de prophétiser. Attention, prophétiser ne veut pas dire prédire l'avenir, mais parler sous l'inspiration de l'Esprit Saint en vue du bien de tous. Et Jean nous donne un très bel exemple de prophétisme en mettant en scène ce long discours de Jésus qui court des chapitres 13 à 17 de son évangile. Comme il est écrit au chapitre 16, « Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et vous le communiquera. » L'Esprit nous fait accéder à la vérité tout entière, c'est-à-dire la vérité de tous les temps que nous pouvons traverser. Ainsi, nous pouvons affronter les situations radicalement nouvelles, non seulement avec l'aide des Écritures qui nous ont été transmises, mais aussi avec l'assistance de l'Esprit. Mais le problème de l'esprit, c'est qu'on ne peut pas le contrôler. Comme dit l'évangile de Jean, « Le vent, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. » Je vous rappelle que c'est le même mot grec pneuma qui se traduit par vent ou par esprit. Donc cette citation pourrait être dit « L'esprit, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. » Rapidement, certains dans les communautés chrétiennes trouvent que donner trop de place à l'esprit entraîne un certain désordre. Cela peut mener à des abus spirituels au nom de « Dieu m'a dit que », à une confiance basée sur les émotions plus qu'en les Écritures. Une des réponses à ces désordres est l'institution des épiscopes, c'est-à-dire des surveillants qui dirigent les communautés. Mais cela ne doit pas tuer toute inspiration prophétique. Irénée de Lyon, un des pères de l'Église, et lui-même épiscope, écrit ainsi à la fin du IIe siècle. D'autres, pour rejeter le don de l'esprit répandu au dernier temps sur le genre humain, selon le bon plaisir du Père, n'admettent pas la forme de l'Évangile selon Jean, dans lequel le Seigneur a promis d'envoyer le Paraclet, le Défenseur. Mais il y repousse du même coup et l'Évangile et l'Esprit prophétique. Ils sont vraiment infortunés, ces gens qui soutiennent qu'il y a de faux prophètes et qui en prennent prétexte pour repousser de l'Église la grâce prophétique, se comportant comme ceux qui, à cause de gens qui viennent en hypocrite, s'abstiennent même des relations avec les frères. Il est normal que de tels hommes n'acceptent pas non plus l'apôtre Paul, car dans les Épîtres aux Corinthiens, il a parlé avec précision des charismes prophétiques. Et il connaît des hommes et des femmes qui prophétisent dans l'Église. Par tout cela donc, ces gens pêchent contre l'Esprit de Dieu et tombent de ce fait dans un péché irrémissible. Fin de citation. Au passage, nous pouvons remarquer qu'Irénée indique que des hommes et des femmes prophétisent dans l'Église. Ensuite, il admet qu'il y a de faux prophètes. Mais cela ne doit pas amener à rejeter tout esprit prophétique. Cet esprit qui actualise le message des Écritures aux réalités de notre temps. Le sola scriptura, cher à nous protestants, ne doit donc pas être un attachement fondamentaliste à la lettre des Écritures, mais il doit s'ouvrir à l'esprit de celle-ci, dans une lecture toujours renouvelée, qui délivre ainsi un message adapté à notre temps, même s'il est assurément différent de celui de la rédaction de ces Écritures. Celles-ci sont assurément une boussole qui nous empêche de nous perdre. Mais ce n'est pas un GPS que nous pourrions suivre sans réfléchir. Mais l'Esprit n'est pas non plus un GPS. Son inspiration doit être confrontée aux Écritures et éclairée par notre intelligence. Si je reviens à ma question du début, l'auteur de l'Évangile de Jean invente-t-il de toutes pièces ce discours ? Oui, car il ne reproduit pas tel quel un enseignement remontant à Jésus lui-même. Mais non, car il écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et, nous dit notre texte, le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il est bien dit « vous rappellera ». Les paroles inspirées ne sont donc pas reçues par une tradition, mais elles sont à la fois nouvelles et enseignées directement par l'Esprit. Celui qui reçoit ces paroles, comme Jean pour notre texte, peut alors dire qu'il se les rappelle, même s'il ne les a jamais entendues auparavant. En dehors de cet enseignement essentiel sur l'Esprit, que dit Jésus dans le passage qui nous est proposé aujourd'hui? Il y a d'abord cette appellation donnée à l'Esprit, traduite ici par « défenseur ». C'est le mot grec « parakletos », formé de « para » à côté d'eux, et de kletos, passif de kaléo, appelé. Le parakletos est donc celui qu'on appelle à ses côtés quand on en a besoin, d'où les deux traductions les plus courantes, défenseur ou consolateur. Jésus annonce que le Père donnera un autre défenseur. Un autre, car le premier défenseur est Jésus lui-même, comme il est dit dans la première lettre de Jean. « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez plus. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur, un paraclet, auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Le premier que nous pouvons appeler à nos côtés, c'est Jésus-Christ lui-même, qui nous mène au Père. Mais déjà au temps de l'évangile de Jean, Jésus peut sembler trop lointain pour nous affermir dans la foi, dans un monde qui ne peut pas recevoir l'Esprit parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Notre monde rejette largement aujourd'hui comme hier le message de Jésus et nous avons alors besoin d'un autre défenseur, l'Esprit de vérité. Et nous dit Jean, cet Esprit demeure auprès de vous et il est en vous. Ensuite, Jésus insiste à trois reprises sur l'importance essentielle de l'amour. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous voyons, voilà, l'insistance sur le lien entre aimer Jésus et garder ses commandements. Tout d'abord, le verbe grec « téréo », traduit ici par « garder », a bien le sens de « avoir la garde de veiller sur ». Ce n'est que par extension qu'on peut le traduire par « observer », comme on le trouve dans beaucoup de traductions. Il s'agit donc bien de garder auprès de soi, en soi, les commandements ou la parole de Jésus, de ne pas s'éloigner d'eux. Il s'agit donc bien de rester attaché à la personne du Christ Jésus, en l'aimant et en gardant ses paroles. C'est ce que nous faisons en méditant fidèlement les Écritures et en nous ouvrant à l'Esprit de vérité par la prière. Et garder la parole, les commandements de Jésus et l'aimer participent d'un même mouvement. Nous pouvons alors être confiants dans cette parole de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous, encore un peu et le monde ne me verra plus. mais vous, vous me verrez, car moi je vis et que vous aussi vous vivrez. » Comme les membres de la communauté de Jean, nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux de chair, mais nous pouvons voir agir son esprit en nous et en nos frères et sœurs. Et ainsi, nous vivons de la vie reçue de Jésus ressuscité. Amen.